en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Emmanuel Leroy-Ladurie, normalien, ancien professeur d'université à la Sorbonne, puis à Paris 7, titulaire au Collège de France de 1973 à 1999 de la chaire d'histoire de la civilisation moderne, administrateur général de la Bibliothèque nationale de 1987 à 1994. Emmanuel Leroy-Ladurie, l'historien français vivant, sans doute le plus respecté dans le monde, et dont je rappelle qu'il a été élu le 24 mai 1993, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Emmanuel Leroy-Ladurie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, Emmanuel Leroy-Ladurie, le moment essentiel ?
Je ne peux pas dire le moment parce que, en fonction de mes divers ouvrages, mon entreprise, à chaque fois, il y avait un moment. Oui, c'est vrai. Par exemple, pour Bagrosthèse, Les paysans de Languedoc, c'était la découverte de Malthus après Marx, sans nécessairement renier entièrement Marx. Mais enfin, c'est Malthus, j'ai eu une intuition. Pour le climat, c'est peut-être une phrase de Braudel. Les glaciers alpins avancent à la fin du XVIe siècle. Il avait pêché chez un vieux glaciologue italien et dans un journal, il était un prisonnier de guerre, qu'on ne pourrait pas qualifier de nazi, puisque c'était un quotidien, mais en fait c'était un journal de l'époque nazie, la Frankfurter Zeitung, qui est aujourd'hui la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et où il avait pris une notation sur l'avance des glaciers alpins. Je pourrais vous citer d'autres moments pour d'autres sujets, si cela vous intéresse.
Oui, Montaillou, par exemple.
Alors Montaillou, c'est en passant devant l'ex-librairie des presses, place de la Sorbonne, devenu magasin de Frusque, je crois. C'est un petit livre de Jean Duvernois, L'Inquisition à Pamiers, paru en 1968. Les Platères, c'est ma jeunesse, j'étais un peu moins jeune, mais enfin à Montpellier, avec les bains de mer, la garrigue, etc. Les Platères avaient été étudiés à Montpellier au XVIe siècle. Je pourrais continuer.
Alors, il y a un moment, enfin un long moment, puisque ça a duré quand même plusieurs années. Vous avez été administrateur général de la Bibliothèque nationale, donc de 87 à 94. Cette Bibliothèque nationale est devenue ensuite la Bibliothèque nationale de France. Quelle a été, au fond, la transformation essentielle dans le passage de l'un à l'autre ?
Alors, c'est une transformation pour le bien, mais pas entièrement pour le bien. C'est-à-dire, bon, Mitterrand a une belle idée, rendons-lui justice. Et on avait une charmante bibliothèque, une vieille dame indigne, mais quand même extraordinaire. Moi, le matin, quand je passais en revue mes troupes, c'était tous les lecteurs qui faisaient la queue. Et je serrais des mains, bon, etc. Et là, évidemment, on a l'espace, on a l'informatisation du catalogue, auquel j'ai beaucoup contribué, car c'était ma tâche, puisque c'était M. Dominique Jamin qui avait la construction. Mais d'un autre côté, l'architecture est mal foutue. Il y a le côté Jekyll et le côté Hyde de Mitterrand. Il a de grands mérites devant l'histoire d'avoir fait cette bibliothèque, mais le cabinet d'architectes a vraiment fait quelque chose qui n'est pas très correct, mais enfin, qui n'est pas fonctionnel. Mais enfin, l'essentiel, c'est que ça marche. Bon, le contribuable sort un peu passé, il ne s'en rend peut-être pas compte, ça vaut peut-être mieux. Mais ça marche très bien, les conservateurs la font marcher. Enfin, c'est tout de même une magnifique entreprise.
Je citais tout à l'heure donc Montaillou, donc je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que c'est le titre de votre ouvrage « Montaillou, village occitan, étude d'une communauté paysanne du Midi au tournant du XIVe siècle ». D'après l'enquête de l'inquisiteur Jacques Fournier, c'est paru en 1975, un livre très 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 sérieux, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Alors avec plus de 35 ans de recul, comment expliquez-vous un succès aussi prodigieux ?
En principe, je ne l'explique pas, mais enfin, il faut l'expliquer. Donc, je pensais effectivement que j'en vendrais à une élite.
2000 et 3000, quoi, maxi.
En France, c'est 270 000, je pense comme ça. Il y a l'étranger, quand même, un certain nombre. Et je pensais que j'en vendrais quand même dans la région, à Tarascon-sur-Ariège, à Aix-les-Thermes, les petites villes locales. Et puis, bon, il y a eu l'effet best-seller. Alors, bon, il y a le côté, évidemment, un peu sexy, c'est-à-dire que l'inquisiteur, qui est un homme très intelligent, s'intéresse aux aventures, aux grands amours, aux passions, aux passades, etc. Mais enfin, disons plus généralement que c'est une sténographie. C'est l'inquisiteur de... C'est un très grand flic, si vous voulez, qui, évidemment, est torturé, a fait brûler peu de gens, mais enfin, il en a fait brûler quand même quelques-uns, mais qui s'était amaigré. Et il avait une batterie de sténographes. L'autre jour, j'ai écouté M. Trichet, qui a parlé à l'Académie des sciences morales, et il avait 4 ou 5 sténographes derrière lui, pour qui, si par hasard, il disait un mot qui pouvait faire baisser ou monter l'euro, etc. Bon. Eh bien, là, il y avait vraiment des sténographes prodigieux qui traduisaient aussitôt en latin ce que disait le brave paysan dans ce qu'on peut appeler l'Occitan, et on le retraduisait pour leur faire entendre ce qu'ils avaient dit. Et c'est bien qu'on a des dialogues. On a des dialogues que j'ai mis en italique dans le livre et qui sont souvent extraordinaires. Vous avez par exemple un « Ne parlons pas, ouais, y a un homme dans mon lit, je dis ça à mes femmes qui sont dans la chambre, etc. » Mais je, tais-toi, non, je me tais pas. Mais vraiment, des dialogues. Et puis alors surtout, cette scène extraordinaire, l'une des plus belles, il est en train de faucher un type plus jeune avec un type plus jeune, il est en train de faucher, je ne sais plus de la voix, donc je ne sais quoi. Et tout en fauchant, il y en a un qui lui dit « Crois-tu que Dieu et la Vierge Marie, c'est vraiment quelque chose ?»« Eh bien oui, je le crois. » Et ben écoute, c'est simplement, c'est une sorte de spinozisme sauvage. Ben non, c'est simplement le monde qui est autour de nous. Et comme l'autre était plus âgé que moi, je l'ai cru. Alors évidemment, on peut dire que c'est peut-être l'inquisiteur qui a soufflé ça. Mais je crois quand même que sur les scènes, les extraordinaires scènes de genre qui est un peu partout, en gros quand même, on est dans le vrai.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Emmanuel Leroy-Ladurie, sur votre domaine d'activité aujourd'hui, donc le métier d'historien ?
On a parfois, quand on fait publier de l'histoire, un sens de la futilité, mais actuellement, si vous voulez, je suis parti de l'histoire rurale, puis j'ai élargi à toutes sortes de domaines, l'histoire urbaine, l'histoire politique aussi.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire, histoire des religions.
Et finalement, l'histoire du climat. Et il me semble que c'est comme une sorte de buisson qui part un peu dans tous les sens, mais que quand même l'axe central, faut-il dire qu'il était écologique, environnemental, c'est peut-être de reconstruction après coup. Mais il me semble que c'est quand même la partie centrale, c'est le rural et finalement le rural qui aboutit à l'environnement.
Oui, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser quand même à tant et tant de choses, quoi, parce que c'est effarant, en général, un historien,
oui,
bon, il spécialise de la Révolution, bien sûr, mais
ben parce que
la liste des choses, c'est quand même... Et à chaque fois, vous approfondissez, vous ne restez pas sur le bord de la route.
Je pense que c'est parce qu'en réalité, je n'aurais pas dû être historien, j'aurais dû être, je ne sais pas, prêtre, ou alors homme d'affaires, ou militaire, enfin un métier normal, si vous voulez. Et pourquoi suis-je devenu historien ? C'est à cause d'une option communiste que je peux critiquer maintenant, qui m'a fourni une épouse.
On y reviendra tout à l'heure.
Que j'ai toujours là. Et donc, je n'étais pas un historien comme les autres. Ce n'était pas tout à fait ma vocation. Et donc, j'ai amené quand même, me semble-t-il, un esprit de liberté, de non-conformisme, que les autres ont aussi, mais que j'avais peut-être, puisque je n'étais pas vraiment dans mon domaine. J'étais un monsieur venu de dehors.
Il faut le dire en plus que tout cela, vous l'avez fait dans le cadre de l'école des annales, qui déjà, elle, avait fait exploser les cadres. Parce qu'avant, c'était l'histoire chronologique, avec les annales.
Ce n'était pas que ça.
Non,
mais enfin, il y avait cette tendance.
Alors, les annales, ça a quand même été une révolution.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a toujours la revue que je respecte. J'y participe moi, mais enfin, je suis toujours là. Donc, la généalogie me paraît, au point de départ, la géographie française, Vital de la Blache et autres. Puis Lucien Febvre, en 1911-12, fait une thèse de géographie sur le XVIe siècle, qui s'appelle La Franche-Comté au XVIe siècle. Marc Bloch fait une histoire rurale, mais qui en réalité s'appelle Les caractères originaux de l'histoire rurale française, mais qui est plutôt d'inspiration bizarrement anglaise ou allemande, c'est-à-dire des modèles tirés des historiens anglais ou allemands qu'il connaissait très bien. Tandis que Lucien Febvre, c'est vraiment le type qui a les pieds dans la gadoue. Et de là sont sortis la Franche-Comté au temps de Philippe II et sortie la Méditerranée au temps de Philippe II de Bourdelle. Et puis toutes nos thèses d'après-guerre, Goubert, Bois, Saint-Jacob, Poitrineau, sur les provinces françaises. Et donc, il y a une espèce de continuité intéressante de cette partie de l'école des annales.
Et donc, un élargissement complet des perspectives, quoi.
Mais, si vous me permettez, nous avons un peu de temps, chose qu'on ignore un peu, il y a eu un éclatement en deux de l'école des annales. Car Brodel, que je continue à aimer beaucoup, n'a pas voulu que Chaunu soit à l'école des hautes études ou au Collège de France. Et donc, Chaunu, dans le cadre de l'esprit des annales, a fondé sa propre école, à la fois à la Sorbonne et à Caen. Et on a si bien l'école Chaunu, qui politiquement est plus conservatrice, mais qui est très riche, des gens comme Poussou, comme Bardet, comme Ginsberg, comme Crouzet, etc. Et puis, vous avez l'école classique des annales, la revue. Chez Brodel, il y a la filiation Chaudu, et puis la filiation Brodel lui-même, et puis tous ses nombreux élèves, dont moi, bien que je sois bien avec les deux tendances. Mais je crois que c'est une chose qui n'est pas connue, ça.
Vous dites que vous êtes un historien à part, et vous avez écrit ceci. L'historien est bien obligé d'avoir recours à l'écrit, aux archives, mais l'écrit est trompeur. Il ne reflète pas la réalité. Alors, qu'est-ce qui vous permet, vous, historien, d'approcher le plus la réalité ? Comment fait-on ?
Théoriquement, il y a évidemment d'aller sur le terrain, et dans certains cas, c'est facile. Par exemple, les glaciers alpins, en famille, je l'ai parcouru, ça m'a aidé d'une certaine façon. Montpellier, et à propos des Platères, je suis un Montpelliérain, pas d'origine, mais un Normand devenu Montpelliérain. Sinon, nos seules armes dans cette affaire sont évidemment la critique des sources et puis quand même une certaine inspiration. Montaillou, il serait facile de dire que c'est Jacques Fournier qui a soufflé les réponses, avec peut-être des tortures, aux gens qui l'accusaient. Mais quand même, il y a un monument qui tient tellement debout qu'on a quand même une impression de vraisemblance et souvent de vérité.
Alors, en 73 et 78, vous avez publié deux tomes monumentaux, donc sur le territoire de l'historien. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les limites de ce territoire ?
Vous savez, j'ai été élevé dans l'idée qu'il y avait quatre volets de l'histoire : l'Antiquité, le Moyen-Âge, illustré par Jacques Le Goff, les temps modernes qui, en France, vont de 1450 ou 90 à 92 à la Révolution à 1789, et enfin, le contemporain. Alors, j'ai cherché à briser ce cadre, parce que je trouvais que ça n'avait pas grand sens. Je ne suis pas le seul, mais moi, je l'ai quand même. Soit avec Montaillou, je suis devenu médiéviste, en ayant très peur du reste que les médiévistes n'apprécient pas, et je crois que certains, pas tous, loin de là, et pas Le Goff en tout cas, m'en ont gardé une dent. Et puis, donc, sur le climat, évidemment, j'étais obligé de faire au moins 1000 années, on me faisait craquer. Et du reste, Jean-Robert Pitt m'a dit, ben oui, tu respectes pas les cloisons. Ben oui, c'est vrai.
Et ça, c'est quelque chose donc, qui est quand même fondamental.
Oui, alors ça, c'est Brodel, quand même. Un jour, un ami m'a dit, Brodel, Raguse, il n'y avait qu'un seul document, mais Brodel était parfaitement bien informé. Et dans sa Méditerranée, certes, elle était le 16e siècle, si l'on veut, mais par ailleurs, il avait fait craquer les cadres. Et vu les deux rives, surtout la rive nord, mais aussi les deux rives de la Méditerranée.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, donc on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Emmanuel Leroy-Ladurie, quelle est l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos, avec la part de jeu que tout ça comporte, hein ? L'idée essentielle, sur le monde d'aujourd'hui, sur notre société,
qu'est-ce que vous avez d'essentiel ? De mon œuvre d'historien,
en général, sur la chose qui vous préoccupe le plus,
Alors, en ce qui concerne, par exemple, ce qui vient de se passer en Libye, j'ai une réflexion de Jean Béchler, que vous connaissez, qui m'a dit « on va vers la gouvernance mondiale ». Et sur le moment, ça m'a paru farfelu. Et puis, je me demande, il y a un peu de ça quand même, c'est vrai, on est encore très loin. Alors, en général, je suis quand même en proie, comme beaucoup de gens, et c'est banal, à un certain pessimisme, peut-être injustifié. Bon, il y a le réchauffement, mais il y a aussi des banalités, la crise de la biodiversité, l'excès de population, le problème de l'eau en Afrique, etc. Et malgré tout, je suis un peu inquiet, les problèmes de coexistence de communautés différentes en France. Après tout, dans les années 30, c'était le nazisme, c'était Staline, c'était pas tellement mieux.
Mais pour reprendre ce que vous évoquiez au point de départ, là, le réchauffement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser c'était dans les années 64, hein, votre premier livre sur
c'est
le
57,
climat.
C'est 57, oui, mais c'est en 56.
Hein, c'est ça. Pourquoi vous êtes-vous, à ce moment-là, intéressé à ces questions-là, alors que les Français ont commencé à s'y intéresser à propos de la canicule en 2003
76.
Pourquoi vous, vous êtes dit à ce moment-là, tiens...
Alors justement, c'est tout à fait indépendant des événements du moment. Au départ, j'étais marxiste, je suis un petit peu, même plus beaucoup maintenant, un petit peu quand même.
enfin bon, par la rigueur.
Oui. Il y a quand même quelques idées. Mais... J'étais marxiste, je voulais faire une thèse sur les crises. Vous voyez, c'était 1929, mais moi, ça aurait été 1873. Et puis, j'étais à Montpellier, et là, il n'y avait pas d'archives pour ça. Donc, j'ai choisi l'histoire rurale, et il y avait donc la crise du XVIIe siècle. C'est pas en réalité, maintenant, je vois, c'est pas tellement une crise, c'est une stabilisation. La France se stabilise pendant 3-4 siècles, mais surtout pendant le XVIIe, à 20 millions d'habitants dans l'Hexagone. À 20 millions, et donc il y a des forces de stabilisation. Mais en tout cas, je me suis demandé à ce moment-là si la crise du XVIIe n'était pas une crise climatique. Pas seulement ça, mais elle pouvait être ça. Du reste, il y a des Allemands encore qui ont rafraîchi ce thème, qui du reste me paraît excessif. Et alors là, j'ai eu le choc de ma vie à ce sujet. Donc vous voyez, c'était pas du tout le réchauffement à l'époque, bien que j'en ai parlé dans mon livre. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le réchauffement récent ». Paradoxalement, alors qu'il y avait un rafraîchissement. Mais c'est vrai qu'il y avait un réchauffement des hivers. Lorsque j'ai découvert dans la revue La Météorologie un article de 1955 sur les dates de vendanges. Et j'ai découvert qu'on pouvait revoir l'histoire du climat assez loin grâce aux dates de vendanges. Et puis un autre dans Science et Avenir, bonne revue de vulgarisation, sur les anneaux des arbres.
Alors, vous avez publié ensuite donc trois volumes, d'énormes volumes, hein, Histoire humaine et comparée du climat. Dans le troisième volume, vous dites qu'il y a eu une période de réchauffement qui a commencé à partir de 1860 avec une accélération dans les années 1910. Sur quoi vous vous fondez là?
Enfin, alors, pour être simple. À mon avis, il y a deux.
Ce sont deux choses différentes?
Oui, différentes, il y a peut-être un rapport quand même. Mais enfin, vous avez la fin du petit âge glaciaire alpin qui commence vers 1854-1855 et qui a une première poussée, enfin un premier recul des glaciers alpins jusqu'en 1880. Puis, et ça n'est pas le réchauffement actuel. Alors, en tout cas, c'est un coup de chaleur, oui, effectivement, et puis peut-être un manque de neige, je ne sais pas. Et puis alors, ça redémarre. Le GIEC, vous connaissez le GIEC, l'Association des savants du climat, ça recommence à partir de 1910, mais en France, pour les hivers, comme l'a montré M. Daniel Rousseau, à partir de 1893, et pour les étés, beaucoup plus tard, 1988, 89, 90, mais avec déjà des sursauts avant de chaleur.
Mais est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'historien, hein, bien sûr, que ce qui se passe depuis les années 90 est de même nature que ce qui s'est passé dans les années 1860-1910?
Les années 60, c'est une fluctuation, mais importante, quand même, oui. Très importante.
Oui. Mais là, il y a un changement de nature, à la fois dans les causes, l'ampleur, les conséquences.
Le GIEC fait partie du réchauffement de 1910, mais il est possible que les phénomènes de réchauffement auxquels on assiste jusque vers 1950 et même plus tard soient liés tout simplement à des facteurs naturels. Ils sont toujours le soleil d'une part et les volcans qui refroidissent momentanément l'atmosphère d'autre part. Mais possible le CO2 quand même, parce qu'il y a des charges industrielles très grandes. Et puis alors, à partir de 1980, je ne dirais pas il n'y a plus de doute, parce que je suis un historien, je ne suis pas un scientifique pur. Mais enfin, je crois qu'on peut considérer qu'à partir de 1988, 89, 90, l'inoubliable tiercé des vins de Bordeaux, avec des étés magnifiques, là, quand même, il semble bien qu'il se passe quelque chose avec le CO2 et les gaz à effet de serre. Là, on est devant quelque chose de probable. Mais encore une fois, moi, je connais le dossier, mais ce n'est pas tout à fait ma partie. Oui.
Mais enfin, vous êtes évidemment très mesuré à l'égard des scientifiques dans vos jugements, mais avec votre regard d'historien, comment vous réagissez devant les bagarres actuelles entre eux là, sur la question du climat, entre scientifiques?
En 1976, il y a eu la sécheresse. J'étais invité avec des scientifiques. Je suis resté modérément dans mon coin, comme Georges Sand devant Chateaubriand. Je les ai laissés parler. C'était très courtois. Aujourd'hui, ce sont des combats de gladiateurs. Et c'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité la gladiature. Et c'est pas comme ça qu'on peut travailler. Mais j'ai été l'autre jour à la session d'une journée de la Société de la Météorologie française. Tout le monde était, si j'ose dire, réchauffiste, si vous voulez. Donc je crois que quand on parle entre scientifiques, et moi encore une fois je suis un peu périphérique, bon, moi j'ai l'impression que la thèse du GIEC tient bon. Mais encore une fois, je vois ça un tout petit peu de l'extérieur.
Mais leur bagarre, enfin l'intensité de leur bagarre, en
bagarre
tant qu'historien...
C'est lié à un personnage baroque. Qui, du reste, est assez étonnant, qui est Claude Allègre. Vous avez eu des grands personnages baroques méridionaux en France. Il y a Georges Frêche. Et Georges Frêche, qui est un homme remarquable, qui s'est tapé 54% des voix, et qui, effectivement, c'était le genre rugbyman de Béziers et tout. Et je crois que Claude Allègre, c'est ça aussi. C'est
avec une immense culture dans l'un et l'autre cas. Hein.
Dans l'un et l'autre cas, culture scientifique chez Allègre, culture historique chez Frêche. Et évidemment, face au côté très terne de la vie politique actuelle, on a là des personnages un peu démesurés. Mais Georges Frêche avait une position solide, tandis que Claude Allègre, bon, je l'aime bien, on a été amis longtemps, bon, c'est un peu refroidi, parce qu'il y a une pétition, peut-être genre, moi je suis depuis longtemps sorti de l'univers pétitionnaire, j'aurais peut-être dû continuer. Mais enfin, c'était un bon scientifique, mais je crois que maintenant il a un autre personnage, il a un personnage de battant, mais c'est pas ce qui me convainc le plus chez lui, alors que vraiment, je crois que c'est un type qui a fait des choses remarquables en géologie et autres.
Bah, vous pourrez écouter l'essentiel qu'on a fait avec lui, où il développe effectivement ses thèses et il répond aux critiques dont il fait l'objet. Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Emmanuel Leroy-Ladurie, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Vous avez le choix, évidemment, mais...
Alors, bon, on pourrait dire que c'est le principe de précaution, mais je crois que c'est surtout le racisme et l'antiracisme, c'est-à-dire qui empêche toute discussion sérieuse sur l'immigration, sur l'identité des gens, sur le problème palestinien... Et à peine a-t-on commencé à énoncer une vague idée que vous ferme la bouche au nom du racisme, de l'antiracisme. Alors, ça n'est pas possible, c'est-à-dire que la meilleure solution, c'est de se taire, je crois. Et puis de parler quelquefois entre amis. Mais Non, je crois que c'est infiniment regrettable. Alors, c'est assez amusant, parce qu'on a, par exemple, voulu enlever même le mot « race » du dictionnaire. Alors, il y a des races bovines, mais ou chevalines, mais il n'y aurait plus de race humaine. Alors, évidemment, on a bien été obligé de le garder, même si, effectivement, au point de vue scientifique, on peut largement discuter ce que ça veut dire. Alors, vous avez quand même le res, l'orgueil chez les Noirs américains, l'orgueil de la race, je ne sais plus comment dire, le res pride ou quelque chose comme ça. Bon, ben, ça existe, même si cette race basée sur la couleur de peau n'est pas vraiment une race, car les chromosomiquement, c'est autre chose. Ben, quand même, les gens se ressentent comme ça.
Mais vous parlez d'hypocrisie, mais ce n'est pas encore beaucoup plus grave, dans la mesure où derrière ça, il y a des convictions quand même. Il y a des gens qui
convictions, et puis il y a des gens qui, vous savez, vous rappelez Prévert, ceux qui croient, oui. Ceux qui croient croire, ceux qui croient croire. Il y a un peu de ça là-dedans, hein, parce qu'il y a des gens qui croient croire parce que ça les arrange.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Emmanuel Leroy-Ladurie, le plus d'espoir?
Alors, on pourrait citer l'accident de la mine d'Ouchili, où on a sauvé les mineurs, où tout d'un coup, au lieu de nous parler des horreurs de la journée, parce que la planète étant considérable, elle est gonflable, pour ainsi dire, eh bien, il y a forcément des horreurs dans toutes les journées qui passent, même si ça s'accentue plus ou moins. Tout d'un coup, on nous a parlé d'un phénomène heureux. J'ai beaucoup admiré, ça n'arrive pas souvent.
Si vous aviez donc plus proche de nous un événement
alors,
heureux...
Alors, je crois que, malgré tout, là, je reviens un peu sur ce qui a été dit, c'est, semble-t-il, pour le moment, ce qui s'est passé dans le monde arabe, mais on ne connaît pas les lendemains. Il y a les lendemains qui déchantent, peut-être.
Si on prend tel que ça se,
ben, tel que ça
se présente aujourd'hui.
Ce qui s'est passé, c'est quand même d'abord beaucoup de jeunes des pays arabes qui ont une formation universitaire, donc qui ne sont plus tout à fait, qui ont des réactions parfois plus rationnelles. Ça, c'est une chose. Et puis, la réaction des pays occidentaux, au lieu d'être rejetée, a été jusqu'ici acceptée plus ou moins par le monde arabe. Alors évidemment, d'un jour à l'autre, ça peut basculer. En même temps, il faut bien se rendre compte que ça peut basculer, certainement, soit vers un islamisme extrémiste, soit... Alors, il y a un argument en sens contraire, c'est que les pays où on a laissé les chrétiens tranquilles, par exemple, c'était l'Irak de Saddam Hussein et la Syrie d'Assad. Et que les Américains sont allés en Irak, c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux, et que résultat, les chrétiens en ont pris plein la figure. Mais enfin, dans l'ensemble, le jugement est plutôt favorable. Pour le moment, ça peut se retourner d'un jour à l'autre, enfin, toujours du bois. Ouais.
Mais quand on voit que ça vient après ce qui s'est passé fin du XXe siècle en Amérique latine, où là aussi la démocratie a progressé, est-ce qu'on peut dire que le principe de démocratie est en train de devenir, non pas simplement occidental, mais universel? Est-ce qu'on peut le dire,
façon,
l'historien,
culture,
est-ce que vous le dites?
La culture occidentale, elle s'universalise.
Donc, est-ce que vous auriez tendance à dire cela avec
oui,
toutes les précautions d'usage?
Oui, je pense que l'Amérique latine, effectivement, a été un exemple. Alors, c'était un pays catholique, et donc, malgré tout, une tradition chrétienne qui s'est pliée facilement à la démocratie. Mais là, c'est au niveau de l'islam. Non, rien pour le moment n'est joué, et on va voir ce qui va se passer, évidemment. Mais enfin, c'est quand même un événement qui renverse les perspectives actuelles. Alors, ce qui est un peu triste, c'est que l'État d'Israël est évidemment embarrassé par sa situation, et serait puisque c'est, malgré les défauts, c'est une démocratie. Ils pourraient normalement intervenir dans le bon sens, mais évidemment, ils sont rendus prudents par toutes sortes de raisons que chacun connaît.
Mais si à terme, cette révolution engagée dans les pays arabes permet l'installation progressive de régimes plus proches de la démocratie, est-ce que vous pensez que cela va faciliter en France, je dis bien en France, l'intégration des immigrés venus de ces pays? Est-ce que ça peut avoir une incidence chez nous, ça?
Oui, c'est concevable. Enfin, ça, pour le moment, je n'y crois pas trop. Ce qui est étrange et peut-être qui ne va pas durer, c'est le calme des banlieues. Est-ce que ça a un sens? Oui. Mais là, pour le moment, ce sont des événements français dans la mesure où la France est intervenue, mais ce ne sont pas des événements de politique intérieure française.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le Japon. Alors, là, je m'adresse à l'historien et à l'expérience qu'il a des comportements humains sur longue distance. Ce qui s'est passé, tremblement de terre, tsunami, et puis donc cet accident nucléaire avec les risques actuels. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment contribuer à accélérer l'établissement d'une gestion mondialisée des grands problèmes de société ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on va oublier ça très vite et qu'on va en rester à...
Non, en principe, ces événements se produisent rarement. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu celui-là. Et en France, nous sommes des fous du nucléaire, comme disent les écologistes allemands. Il n'y a pas eu de choses semblables. Il paraît que l'accident américain de Three Mile Island aurait pu lui-même être très dangereux. Ce qui quand même m'inquiète, c'est qu'on a un rayon maintenant de 20 km qui est évacué. Il faudrait aller à 40, ce qui veut dire dans un petit pays quand même. comme le Japon, qui est guère plus grand que l'Italie, ce qui veut dire un rayon de 80 km. Donc ça, c'est assez effarant. Bon, je pense que les gens reviendront, mais pour le moment, c'est cela qui est effrayant. Alors, je crois quand même, bon, ça, que tout le monde tombe un peu d'accord, que c'est... Moi, j'étais très pro-nucléaire, enfin, après, je ne militais pas, mais malgré tout, c'est une énergie de transition. Mais quoi ? Alors, le vent qui fait... où les oiseaux se heurtent aux grands poteaux, ou le soleil, on en aura de plus en plus, peut-être, avec le réchauffement... Oui, peut-être. Et puis la fameuse utilisation de l'hydrogène, l'énergie de fusion. Mais à chaque fois, chaque année, on dit que c'est seulement dans 50 ans. Et tout de même, l'imprudence, il y a 80 000 avions qui volent, ça c'est en dehors du clair. Il y a des millions et des millions de voitures, de tracteurs, etc. On ne peut pas être tout à fait optimiste.
Là-dessus, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe énorme dans le fait que, d'un côté, quand on regarde ce qui se passe dans les pays arabes, on peut se dire que c'est la philosophie des Lumières, au fond, au XVIIIe siècle, qui, à travers le progrès de la démocratie, est en train de triompher. Et puis, d'un autre côté, vous évoquez le Japon, vous évoquez tous les risques, on parle de climat, on parle de démographie, on parle d'énergie. Est-ce que là, on n'est pas au contraire à l'opposé de la philosophie du progrès, de la philosophie des Lumières? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de tourner le dos complètement à ça, avec une sorte de catastrophisme ambiant qui fait qu'on attend une fin du monde, quoi. Il y a des tas de gens qui... C'est-à-dire que d'un côté, la philosophie des Lumières serait en train de triompher, et de l'autre, elle serait en train de recevoir une claque magistrale. Qu'est-ce que vous pensez
alors,
de ça ?
La démocratie, disait Churchill, vous savez, le pire de tous les régimes possibles, à l'exception de tous les autres. C'est vrai que c'est un régime assez mal foutu, qui fait voter des gens incompétents, etc. Mais enfin, on n'a rien trouvé pour le moment pour remplacer ça. Je crois qu'il y a quand même une dictature de type platonicien, c'est-à-dire un dictateur, c'est Singapour, il paraît. Mais oui, je crois que ça, enfin, c'est une espèce de dictature.
Ce que voulait être Salazar, d'ailleurs.
Oui, mais ça ne se compare pas.
Il voulait être,
mais Salazar, ça restait quand même un...
moins platonicien.
Ça restait un pays agraire peu développé, alors que vraiment, Singapour, au contraire, au point de vue scientifique, il faut dire que les Allemands aussi, mais ça n'a rien à voir. Bon. Mais si on met à part cette exception, à supposer que ça en soit une, malgré tout, la démocratie est préférable. Donc de ce côté-là, il y a un vecteur qui est intéressant, mais n'oublions pas quand même que... pas tellement Mussolini, qui était quand même un personnage moins important et qui n'est pas totalement négatif. Mais enfin, Hitler et Staline sont venus de la démocratie, c'est-à-dire de l'émergence au pouvoir de gens d'origine très modeste, qui en général peut être bien, mais là, vraiment, on est très mal tombé. Alors, d'un autre côté, la tendance lourde, c'est quand même quelque peu, peut-être, catastrophique. Et pour le moment, la démocratie n'y peut pas grand-chose. Je pense que ça a commencé en 14. C'est-à-dire que, malgré tout, l'idée du progrès, cher à Hugo, à Jules Verne, était quand même à peu près bien dans les esprits. Il y a, malgré tout, l'article guerre de l'Encyclopédie universelle de 1905 qui semble quand même avoir un peu prévu quelque chose. C'est la mitrailleuse. À partir du moment... J'ai connu un prêtre, un homme sympathique, qui se vouait au culte du Sacré-Cœur de Marie. Bon, très bien, mais enfin, il me racontait, avec une certaine indifférence, avant la guerre, il était réparateur de radiateurs, l'avoir voir la guerre de 14, puis il était... Eh bien, qu'il avait tout de même tué 273 Allemands avec sa mitrailleuse. Bon, un prêtre, un homme sympathique et valable, quoi. Donc, je crois que la mitrailleuse, c'est le début de ce qu'on ne croit plus tellement au progrès, que le progrès technique, qui fait des choses admirables, quand même, il ne faut jamais l'oublier, en médecine, enfin, bien des choses, semble engendrer de plus en plus. Et on dit toujours que les trois personnages, Prométhée, Faust, Frankenstein, c'est un peu de mal en pire. Ouais. Les trois types qui ont domestiqué le progrès.
Et le livre de Spengler, Le déclin de l'Occident, c'est pas 1917
? Oui,
ça
ah bah j'étais.
C'est ça
un, j'étais 17 un, non, c'est 1920 par
non,
là.
C'est, oui, plus tard.
Et je crois que c'est dans les faits, c'est un grand livre que j'avais lu. Et puis après, je suis devenu marxiste. Mais c'est un beau livre, effectivement. Mais c'est une problématique un peu différente. C'est le déclin de la civilisation occidentale et la comparaison avec d'autres civilisations. Alors là, on rejoint Huntington. Mais Huntington, qui rejoint Pyrène, qui est le magnifique livre de Pyrène, de Mahomet et Charlemagne, un très grand livre, qui n'est même pas cité par Huntington dans son l'histoire des civilisations.
Il n'a pas dû le lire.
Et effectivement, on est devant des phénomènes de civilisation, l'Occident, la Russie quand même, qui pour le moment n'arrive pas quand même à la démocratie. On n'en est pas très très loin, mais peut-être qu'un jour on découvrira chez eux que c'est aussi pire que chez Moubarak.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Alors, la question est évidemment très personnelle, donc vous avez le droit d'utiliser un joker et de me dire que vous n'acceptez pas de répondre. Quel a été, Emmanuel Leroy-Ladurie, le plus grand échec de votre vie ? Comment l'avez-vous surmonté ? Ou du moins, avez-vous tenté de le surmonter ? Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Hein, bon, si, quand même. Je crois que c'est ma rupture avec mon village natal en Normandie. Je suis en bon terme avec les habitants. Mais en adhérant au Parti communiste, j'ai, alors, dans un milieu... qui lui était catholique, de droite, etc. Ça s'est passé en moi. Je pense que les gens s'en foutaient avec raison, totalement. Mais j'ai eu l'impression que je n'étais plus des leurs. Et c'est une souffrance qui est restée jusqu'ici, si bien que ma vie se passe quand même peut-être en dehors de ce village pour lequel je conserve des sentiments très profonds, mais sans arriver à m'y réinsérer, ce qui n'a plus grand sens, puisque les gens, mes contemporains, aux 80 ans, tout se passe dans ma tête là-dedans. Et effectivement, c'est le second problème. J'ai passé 5 ans au Parti communiste. Bon, je ne dois pas regretter, j'ai trouvé une épouse, enfin, c'est bien des choses. Mais je n'arrive pas à dire que c'est une expérience utile, certes. Mais je crois aussi que c'est une erreur, et c'est plus qu'une erreur, c'est une faute.
Alors, vous avez quitté le Parti communiste en 1956.
Oui.
Vous aviez donc, si j'ai bien compté, 37 ans.
Non, pas du tout, 27. Oui.
27,
37 ans, ça aurait été vieux.
27, oui.
Pourquoi l'invasion de la Hongrie a-t-elle constitué cette goutte d'eau-là?
Vous savez, un jour...
Il y avait eu des tas d'autres choses avant. Quand même. Oui. Vous n'êtes pas le seul. Hein.
Ah non, non, mais...
Gel, Furet, Besançon...
Oui, alors là, c'est une génération, ça. Mais il est certain
que...
Vous êtes
tous partis en 56.
Oui, mais avant, il y avait... Alors, Edgar Morin a dit... Ah, mais moi, attention, je ne suis pas parti en 53, je suis parti en 52. Alors, bon, c'est un ami, c'est un homme que j'aime beaucoup, sa théorie de la complexité. Mais il est certain qu'il y a eu toutes sortes de départs. C'est vraiment une machine...
Oui, mais pourquoi 56, en ce qui vous concerne?
Ah, bah alors, parce que, si vous voulez...
Et pas avant...
Nous étions staliniens, et quand même staliniens durs, et tout de même durs en parole, en pensée, pas beaucoup dans les actes. Et Staline meurt, il nous rend le service de mourir en 53. Et par conséquent, supposé qu'il ait vécu 10 ans, ben là, j'aurais tenu jusqu'à 37 ans, peut-être.
Ah oui.
Et quand même, je vois des amis à moi, y compris dans ma belle famille, qui ont un peu perdu une partie de leur vie. Parce que quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils avaient 40 ou 50 ans, ils ne pouvaient plus se refaire. Nous, c'était encore... On se retrouvait un peu en caleçon dans le fossé. Mais enfin, on pouvait redémarrer, c'est ça.
Alors, Axel Kahn nous a dit ici, dans cette émission, parce que lui a mis plus de temps que vous à rompre avec le PC, hein. Il nous a dit, je me rendais compte que ça n'allait pas, mais, alors ça, c'est quand même très intéressant. J'avais la sensation d'appartenir à une communauté très soudée, avec des gens de milieux extrêmement simples, et que si je quittais le PC, je trahissais ces gens-là, et que c'était abominable pour eux.
Ben, c'est un peu comme les moines qui ont été massacrés. Là, ils disent, on n'a pas le droit de quitter les Algériens du village voisin. Alors, en fait, ça s'est fait de façon naturelle, puisque à la fois, on aimait bien ces gens-là, mais eux-mêmes, peu nombreux étaient ceux qui suivaient notre liquidation torrentielle du stalinisme. Donc, il y avait une rupture. Ils nous ont peut-être pris un peu pour des salauds. Mais à côté de ça, je vois un type comme Balmiger, un militant communiste de l'Hérault, qui était le militant ouvrier parfait, et 40 ans après ou 30 ans après, il dit, mais vous savez, j'étais complètement bouleversé de l'intérieur. Donc, il nous cachait aussi ses tourments.
Ah oui, chacun cachait à l'autre ses tourments.
Oui, donc,
et ça continuait comme ça. Alors, avec le recul, bien sûr, maintenant, est-ce que vous considérez comme inéluctable le fait que l'application politique des théories de Marx et d'Engels ait débouché à peu près partout où elles ont été mises en œuvre sur une forme de totalitarisme?
Ah non, parce qu'il y a quand même, le socialisme réformiste, il y a Bernstein.
Oui, mais je parle.
Mitterrand croyait que c'était Bernstein, un chef d'orchestre. Oui.
Bernstein n'a jamais exercé le pouvoir, à ma connaissance.
Ah non, mais il a fondé le socialisme démocratique.
Oui, mais en tant qu'exercice de pouvoir, on n'a jamais vu de régime. Vous connaissez un régime communiste qui n'est pas
Écoutez, les socialistes, Guesde, par exemple, Jules Guesde.
Oui, Jules Guesde.
Jules Guesde était très influencé par Marx. Il a été ministre en 14, ministre dans le.
Il était surtout grand syndicaliste, Jules Guesde. Non,
Jules Guesde, non. C'était le socialiste, plus ou moins marxiste ou marxisant. Il n'a jamais versé dans le totalitarisme. Le socialiste démocratique, qui est quand même en partie d'inspiration marxiste, n'a jamais versé là-dedans. Et Engels, moi j'imagine facilement qu'en 14, s'il avait vécu, il aurait voté les crédits militaires pour la Prusse.
Oui, donc, parce que les textes d'Engels sur la violence, c'est inouï ce qu'il dit, sur la justification de la violence.
Oui, bien sûr, mais enfin, il y a quand même toute une partie du mouvement...
Guevara s'est inspiré d'Engels, le texte d'Engels, directement.
Oui, bien sûr. Mais enfin, non, je pense qu'une partie du mouvement marxiste est allée vers des solutions réformistes en se transformant, et on ne peut pas... Je crois que c'est Lénine et Staline, mais c'est Lénine qui est, puis Mao d'une autre façon, qui a vraiment créé ce terrorisme. Alors, vous savez, c'est comme Napoléon et Hitler. Hitler a fait du tort à Napoléon, rétrospectivement. Un type qui conquérait l'Europe. Nous, on continue à bien aimer Napoléon. Et bien, de même, Lénine et Staline ont fait du tort à Marx. Mais enfin, si ça s'était déroulé uniquement dans les pays d'Occident, comme l'Allemagne et la France, bon, il ne serait pas passé quelque... C'est plutôt du côté d'Hitler que l'Allemagne a basculé, mais ça n'avait rien de marxiste.
Mais l'idée, quand même, qu'il y avait moins chez Marx que chez Engels, fin justifiait les moyens. Par exemple, le mot de Sartre, il ne faut pas désespérer Billancourt. Enfin, est-ce que tout ça...
Écoutez, Sartre, c'est une assez triste histoire. Il y a d'un côté Sartre et Simone de Beauvoir. La première, en 49, invente le féminisme, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est vrai, et la voilà qui monte au ciel. Sartre, bêtement, alors que c'est un homme vraiment important, bascule vers Staline, puis Mao, et s'effondre dans les profondeurs. Et néanmoins, le couple semble avoir tenu, mais alors c'était très distendu. Hein. Donc oui, certainement, Sartre, Merleau-Ponty moins, mais un peu aussi. Et finalement, le type qui a à peu près tout compris, même s'il a refusé de signer pour Brasillac pour qu'il ne soit pas fusillé, c'est Camus. C'est Camus qui vraiment a suivi une voie démocratique.
Et qui était considéré comme un pestiféré par les autres.
Oui, mais enfin, il a eu le prix Nobel quand même. Mais au prix Nobel, il était quand même assez mal vu par les Scandinaves, oui. Mais c'est lui qui a eu... Égide.
Oui, avant tout le monde. Mais vous l'aviez vu, quand vous étiez, vous, jeune communiste,
moi, je
vous aviez
tout.
Lu le retour
je,
de
oui, oui, je savais tout sur le communisme.
Bon, vous saviez tout.
Oui, je savais tout, mais c'était...
Mais alors, comme marché, bilan globalement positif, c'est ça?
Pas du tout, pas du tout.
C'était quoi?
Non, la violence était nécessaire. On divisait la violence, mais nous savions...
Vous savez, moi, voilà, on revient au texte d'Engels.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça, même chez Engels, qui était plutôt un brave bourgeois. Je crois qu'il y avait des possibilités de ce genre. Enfin, c'est comme chez le Christ, à ce moment-là. Jésus-Christ est un type très sympathique et tout, et puis il en est sorti, toutes sortes de choses.
Oui, mais lui, il ne portait pas quand même de Kalachnikov en bandoulière.
Non, mais enfin, l'Ancien
Testament... Bien qu'on l'ait fait porter dans la théologie de
vous
la libération.
Vous savez, la comtesse de Ségur avait fait une Bible pour les enfants, où elle comptait le nombre des morts dans les divers chapitres de la Bible, 20 millions par-ci, 10 millions par-là. Alors les enfants, ils aiment enfin grand-mère, c'est pas possible.
Alors, petite question anodine. En 2005, vous avez publié un ouvrage sur Henri IV, très remarqué,
qui
détonnait un peu dans tout votre itinéraire d'historien. En quoi, pour répondre aux questions de notre temps, aurions-nous intérêt à nous inspirer d'Henri IV ?
Si vous voulez, Henri IV, Philippe d'Orléans, il y a un côté Khrouchtchev, c'est-à-dire une ouverture libérale, ouverture religieuse, l'édit de Nantes, ouverture géographique en direction des puissances maritimes, libérales, capitalistes, l'Angleterre et les Pays-Bas, ouverture économique, les 20 ou 30 glorieuses de l'époque de Sully. Donc Henri IV est un type, enfin qui a eu cette prodigieuse intuition de l'édit de Nantes, de la tolérance. Du reste, on l'a retrouvé sa tête, vous avez vu, et c'est pas très réussi. Mais... Et Jean-François Revel, qui n'était pas spécialement monarchiste, a dit voilà, une intuition admirable. Et alors on retrouve là l'idée de la société ouverte, chère à Karl Popper, qui du reste a tout pompé de Bergson, chose qu'on ne dit jamais. Des deux sources de la morale et de la religion.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, Emmanuel Roy-Ladurie, votre motivation essentielle dans la vie ?
Toute ma vie, ça a été le travail. Et j'ai un peu laissé à ma chère épouse les soins plus ménagers, donc je me sens un peu coupable. Mais aujourd'hui, je suis enfin, non pas à la retraite, mais à une demi-retraite. C'est-à-dire que vers l'âge de 80 ans, ma vue a baissé, donc je suis obligé de modifier mes méthodes de travail, de travailler moins tout en travaillant un peu. Et donc, si vous voulez, c'était ma motivation a été le travail, maintenant c'est le mi-temps.
Il faut dire que votre épouse, sans trahir de secret, s'occupe merveilleusement de vous.
Ben, je n'ai pas mérité cette femme, oui, mais enfin bon, on a parfois des chances.
Votre modestie vous honore. Alors, vous appartenez à une famille où la richesse des engagements n'a d'égal que leur diversité, avec des personnalités extraordinaires. Hein. Je vais blesser votre modestie, mais votre grand-père, le commandant Barthélemy Emmanuel Leroy-Ladurie, l'officier de carrière, qui est destitué en conseil de guerre parce qu'il a refusé de participer à la fermeture des écoles des congrégations catholiques en 1902. Votre père, Jacques Leroy-Ladurie, un des fondateurs donc, du syndicalisme agricole, ministre du ravitaillement sous le régime de Vichy, puis résistant et maquisard. Alors, pour vous, l'historien, en quoi des personnages comme ça, des figures comme celle-là, ont-elles nourri votre vision de l'histoire et l'ont-elles enrichi ?
Alors, si vous voulez, mon grand-père était le Dreyfus de la famille. Simplement, au lieu d'être capitaine Dreyfus, il a eu un rayonnement français, international. Mon grand-père a un rayonnement familial. Mais attention, j'ai un ADN de droite, si l'on veut, par mon grand-père, catholique. Je suis catholique sans fanatisme. Et d'autre part, par mon père, enfin, c'est paysan et tout, mais paysan plutôt du conservateur, mais très de droite d'adaptation sociale et économique. Mais n'oubliez pas que je descends d'un prêtre défroqué de la Révolution française. Alors, il se défroque. Quand il voit que son évêque se marie en 1793 avec la déchristianisation, il quitte l'église, il fait une déclaration pour dire « Bon, la religion, c'est pas mal, mais c'est pas très adapté au moment actuel. » Et il change son nom. Il était le roi de la Durie. Alors, il devient, au milieu de son acte de mariage, puisqu'il se marie, le roi dit Ladurie. À la fin de l'acte, il est le roi Ladurie. Et me voilà, et dégoûté de s'appeler le roi, non, il se fait appeler le franc Ladurie. Et puis ensuite, ça va. Mais donc, j'ai un ADN aussi, jacobin.
Oui, mais enfin, ce sont toujours des personnalités quand même exceptionnelles.
Oui, alors après, il y a eu des gens intéressants, mais moins. Et puis enfin, il n'y a pas que la lignée masculine, on a de nombreux ancêtres. Hein. On privilégie alors, une lignée.
Votre expérience d'historien, est-ce qu'elle a développé chez vous un sentiment tragique de la vie, pour employer la formule de Namuno, ou est-ce qu'elle vous conduit au contraire, puisque vous parlez là maintenant de votre sagesse à votre âge, est-ce qu'elle qu'elle vous conduit au contraire à profiter au maximum de tous les petits bonheurs qui passent en sachant que tout ce qu'il y a de tragique dans la vie. Qu'est-ce qui domine chez vous?
Vous savez, la tragédie, je crois que notre génération d'historiens l'a connue par la cause de la guerre.
C'est ça.
Moi, j'étais au débarquement, j'ai perdu un frère, je ne suis jamais bien remis d'un accident d'avion, mais après la guerre. Et donc, la tragédie, les embêtements d'épuration de mon père, d'un de mes oncles aussi, Gabriel de Roladurie, que j'aimais bien. Donc, j'ai un sentiment ou bien du tragique ou du dramatique. Et je crois que ma génération d'historiens, Furet, Le Goff et d'autres, ont plus ou moins vécu des choses comme ça. Peut-être ça nous a donné une dimension plus existentielle, j'en sais rien.
Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui Emmanuel Leroy-Ladurie, l'un des deux ou trois plus grands historiens français vivants, et dont je rappelle qu'il est depuis 1993 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Emmanuel Leroy-Ladurie, merci.
Merci.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous. Thank you.